clôturer cette première semaine de diffusion de l'heure du documentaire consacrée au cinéma, je vous invite à redécouvrir une histoire particulière. Il y a quelques mois, inspiré par le livre « Les déportés d'Avon », Dominique Prussac vint à la radio avec le projet de raconter l'histoire particulière du film « Au revoir les enfants » de Louis Malle. L'idée était de revenir sur les lieux du tournage d'abord, puis de retourner dans le collège où eut lieu la véritable histoire du père Jacques de Jésus, qui marqua tant la jeunesse de Louis Malle. L'histoire se déroule durant l'hiver 1943, dans une France occupée. L'histoire d'une rentrée presque comme les autres, jusqu'à ce que le prêtre vienne présenter trois nouveaux élèves. À Provins, le 7 octobre 1987, au cinéma Le Rexy, Louis Malle présente en avant-première aux Provinois son film qu'il a tourné l'hiver précédent dans leur ville. Toute la population est là. Le tournage a duré 8 semaines à l'institution Sainte-Croix, au pied de la cité médiévale. À part les trois jeunes héros du film qui sont des acteurs professionnels, tous les autres enfants sont des Provinois, les professeurs aussi. Louis Malle voulait les remercier pour leur travail et leur accueil. En 1988, il reçut le César du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. Il reçut également le prix Louis de Luc, le Lion d'or à la Mostra de Venise et fut nominé aux Oscars et au Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Dominique Prussac et Anna Schmuck ont retrouvé les acteurs de l'époque et des membres de l'équipe du tournage de Louis Malle. Nous partons en Seine-et-Marne d'abord, à Provins, puis à Avon, dans les cours d'école où tout a commencé. Aujourd'hui, on fait une chasse au trésor en forêt, on joue à cache-cache et on dessine à la craie sur le sol.
Au revoir les enfants, des mots qu'on n'oublie pas, par Dominique Prussac et Anna Schmuck.
Alors Julien, vous avez passé de bonnes vacances ?
Oui mon père.
Vos parents vont bien ?
Oui mon père.
Nous sommes ici à l'endroit où l'on découvre la première image de Provins dans le film « Au revoir les enfants ». C'est la rue Saint-Thibault. Les Provinois disent la côte Saint-Thibault parce que c'est une rue pentue qui unit la ville basse à la ville haute. Et donc la première vue de Provins que l'on voit dans ce film, c'est ici. Et on entend d'ailleurs déjà un peu la chanson à la Clairefontaine que chantent les enfants parce qu'on entend toujours un peu avant l'image le son. Et là, tout de suite, arrivent les enfants. Ils débouchent de la rue qui est un peu à gauche, qui est la rue de la Table Ronde, et ils montent. Ils montent en rempart d'eux avec leur béret, avec leur cape noire. Les vacances de Noël viennent de se terminer, donc ils retournent à l'école. Et la caméra va les suivre en travelling arrière. Elle va remonter un peu avec les enfants. Vous voyez, là, on remonte avec les enfants et la caméra. Il y a même Julien Quentin qui dit qu'il est très content parce qu'il a reçu des livres pour Noël. Et la caméra va ensuite panoter avec les enfants qui vont pénétrer dans cette cour de collège où l'on peut lire à droite sur une plaque « Couvent des Carmes, petit collège Saint-Jean de la Croix ». Alain Clément, c'était vous qui dirigiez cet établissement, c'était pas le vrai nom de cet établissement.
Non. Le vrai nom, c'est l'institution Notre-Dame, ici, c'est le site Notre-Dame, et l'ensemble scolaire, c'est l'institution Sainte-Croix.
Alors, comment vous sentez-vous 30 ans après le tournage de ce film? On entend encore un petit peu la cloche teintée, là, quand les enfants rentrent.
Surtout qu'on tournait en son direct, ça me fait drôle quand même. Je rajeunis, j'ai tombé la barbe, mais tout va bien.
On va d'ailleurs rentrer dans cette cour avec les enfants, avec vous. Qu'est-ce qui vous revient tout de suite, là?
La rencontre avec Louis Malle. C'est quelqu'un qui avait un contact avec l'autre de façon magistrale. Et principalement avec les enfants. Et tout de suite, ils percutaient, ils retenaient les prénoms. Bon, évidemment, les deux héros, que ce soit Gaspard ou Raphaël, bon, ils connaissaient par cœur leur prénom, bien évidemment. Mais le petit figurant, il l'appelait par le prénom. Voilà, et puis bon, quand on avait des conversations en dehors du tournage, c'était quelqu'un de très profond. Et on a eu aussi une discussion sur le titre du film. Puisque le film devait s'appeler « Le Nouveau ». On trouvait que ça, c'était pas assez parlant. Et on lui a dit, mais pourquoi on reprendrait pas les dernières paroles du père? Parce que c'est ça, c'est le départ, c'est le revoir qui est un adieu, en fait. C'est comme ça qu'il a choisi au revoir les enfants.
Mais elle s'est passée où, cette rencontre, hein?
Cette rencontre, la première fois que j'ai vu Louis Malle, c'était à l'intérieur.
On va rentrer peut-être à l'intérieur, oui. Avec une très belle porte, d'ailleurs. Hein,
oui, qui est d'époque.
D'époque, ancienne, large, presque un porche. Okay. On rentre dans cette cour.
Attention à la marche.
Oui, voilà. Et là, battant. Alors, il faut passer un peu.
Donc, j'ai accueilli Louis Malle et quelques personnes de son équipe en octobre 1986 pour un repérage. Son assistant m'avait téléphoné auparavant pour me dire que Louis Malle souhaitait tourner dans une salle de classe. Et en fait, quand Louis Malle est venu lui-même sur les lieux, il est entré dans ce bâtiment. Il a été séduit par l'odeur de cire qui lui rappelait effectivement son enfance quand il était lui-même collégien. Et bien, petit à petit, il a demandé si ce n'était pas possible de tourner une grande partie de son film qui lui tenait à cœur dans l'établissement que je dirigeais à l'époque.
C'est beaucoup plus lumineux aujourd'hui avec le soleil que dans le film, parce que dans le film, c'est assez oppressant, cette atmosphère grise, ces vieilles pierres. Ça participe d'ailleurs au climat du film.
Hein. Ah oui. Louis Malle voulait qu'il fasse froid, il a fait froid, très froid. Il voulait de la neige, il y a eu de la neige. Hein, c'est pas de la neige artificielle, c'est pas de la neige de cinéma. Un beau jour, il avait décidé de tourner je ne sais plus telle scène qui venait avec la scène de la veille. Et il fallait que ça soit raccord. Mais il y a de la neige. Donc tout le monde a pris la pelle, y compris le mâle, pour retirer la neige.
Là, on va vraiment entrer dans la partie un peu plus dure de cette cour. Ouais. D'ailleurs, il y a du bitume par terre.
C'est à l'époque, ça.
Ouais. On sort des pavés, là, on est sur des pavés, il y a du gazon. Mais là, ça devient un peu plus dur. Et je dirais que ça correspond beaucoup plus à ce qu'on a vu dans le film et à ce qu'on voit dans le film.
Bah, c'est-à-dire que là, j'ai tourné la fameuse scène où je fais faire la gym.
D'ailleurs, vous dites des choses intéressantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous dites dans le film.
Moi, je leur fais faire des pompes.
Vous dites les épaules en arrière, vos enfants. Vous dites, vous avez des biceps en papier mâché.
Ouais.
Voilà.
Vos épaules en arrière.
7,
8, 9. Vous avez des biceps en papier mâché.
Oui, mais une histoire de fesses aussi.
Oui, parce qu'il y a Irène Jacob qui joue une prof de piano.
Son premier film.
Ouais.
Et qui arrive à vélo.
Voilà, un peu sexy pour l'époque. Et les enfants sont séduits.
Oui, oui. Ouais. C'était pas mixte à l'époque, il n'y avait que des garçons. Donc, mais ça, effectivement, c'est un des rares éléments féminins dans le film de Louis Malle.
Mais c'est complètement inventé. Hein.
Sans doute. Mais ça, c'est l'art du cinéaste et c'est l'art de l'artiste. Hein. Bien sûr, c'est son histoire, mais elle est romancée.
C'était quelqu'un de très pudique. Et ce qu'on sentait, c'est que c'était un film très important pour lui. Il y a deux raisons à ça. Le premier, c'est que c'est un souvenir autobiographique et qu'il avait à l'esprit de réaliser depuis des dizaines d'années, mais qu'il voulait avoir un peu de recul et l'âge et probablement la maturité de metteur en scène pour le réaliser. Et la deuxième chose, c'est qu'il venait des États-Unis où il avait passé 10 ans et il avait fait 6 ou 7 films. Et sa carrière américaine était plus compliquée. Et donc, revenant en Europe à ce moment-là, il a décidé de faire ce film. Et il y avait un double enjeu. C'était, un, réussir ce film. Et deuxièmement, c'était que c'est relancer sa carrière internationale. Ce qu'il a réussi, parce que le film s'est très bien vendu aux États-Unis. Le film a eu un prix à Venise et il a eu des Césars en France.
Yann Gilbert, il y a 30 ans, vous étiez assistant réalisateur de Louis Malle pour le film Au revoir les enfants. Que faisiez-vous exactement sur le tournage?
En tant qu'assistant réalisateur, vous pouvez travailler au casting pour les décors, la même chose. Et à Provins, le décor du film, c'est moi qui l'ai trouvé en l'occurrence. Ça a été d'ailleurs très compliqué. Et puis pour les enfants, hormis les rôles principaux, on va dire les enfants qui sont dans le collège, les enfants périphériques aux 3 gamins principaux, c'est moi qui ai fait des castings sur place là-bas.
Salaud l'aviron. En garde l'aviron. Lâche, traître, félon. C'est moi, Négus, le chevalier noir. Protecteur des faibles et des orphelins.
Allez, Négus.
Arrière, Morico. Je suis Richard, cœur de lion, l'orgueil de la chrétienté. Je vais te bouter hors de Jérusalem.
Arnaud Henrier, vous avez joué le rôle de Négus. C'était un des 3 enfants juifs du film Au revoir les enfants. Vous êtes né à Provins. Comment vous êtes-vous retrouvé dans le film? Vous aviez quel âge à l'époque?
En 87, j'avais 15 ans. Donc je pense que le casting, je devais avoir 14 ans quand ils ont fait le casting. Ça s'est passé en deux temps. Ils sont venus dans la cour du collège à la Ville-Haute de Provins.
Le collège de Savigny.
Exactement. En fait, ils avaient eu mon nom parce que j'appartenais au club théâtre du collège. Donc, je les ai vus. J'ai fait le con devant les caméras en répondant à trois questions. Et puis après, j'ai pas eu de nouvelles pendant 2-3 mois. Et un jour, on a appelé chez mes parents et on m'a donné rendez-vous pour le samedi qui suivait en Ville-Haute pour rencontrer Louis Malle.
Maintenant, vous êtes professionnel.
Ouais. Moi, j'avais déjà envie et ça a fait que confirmer cette envie. En fait, j'ai des souvenirs hyper précis de choses qui sont presque périphériques au tournage. Je me souviens quand une scène, il y avait un changement dans le plan de travail ou quelque chose comme ça. On venait nous chercher directement en classe, en voiture, dans la cour de l'école. Ça, c'était assez kiffant. Et le souvenir que j'en ai, c'est un souvenir de colonie de vacances. Rien n'était fait pour nous faire croire qu'on travaillait. On était entre nous, entre enfants, ça allait de 12 à 15, voire plus. Il n'y avait aucune hiérarchie entre tous les enfants, les premiers, les seconds rôles, les figurants, etc. Tout ça s'était mélangé. Et voilà, c'est un souvenir de colo, vraiment. J'ai ce souvenir de grande caillade. Parce qu'à l'époque, on était donc sapés, enfin costumés comme à l'époque. C'est-à-dire croquenot qui est en cuir assez fin, grosses chaussettes en laine qui piquent, petit short au-dessus du genou, enfin bermuda mais qui s'arrête au-dessus du genou, donc ça laisse passer l'air frais. Et puis après, une chemise, un pull en laine et une cape.
Racontez-nous une journée ordinaire de tournage. Racontez-nous ça.
Mais rien n'est ordinaire dans un tournage. Quand Louis Malle arrive le matin, c'est là, je vais vous dire, la scène 12, puis dans la nuit, il a cogité, il dit non, ça sera la scène 14. Alors après, il faut suivre. Après, ils disent pas oui, maître. Oui, Louis, mais t'exagères pas un peu, on avait dit qu'on allait tourner. Et puis, oui, et puis dimanche, on va, pour les repérages, on fera de Fontainebleau. Alors demain, debout 7h. Hein. Bon. Au départ, c'était donc dans les vestiaires de l'ancienne piscine, où il y avait donc toute la régie qui était installée.
Qui n'est pas à côté d'ici, il faut descendre.
Descendre.
Passer près de la Rouseraie, voilà. Et puis aller dans cette ancienne piscine, des bâtiments construits il y a deux siècles, à l'époque des eaux thermales de Provins.
Ouais. Et donc, ils allaient s'habiller, ils allaient se mettre en short, prendre leur capeline. Et puis alors moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas tourné tout le temps, bien évidemment, mais j'allais là-bas aussi. Hein, alors j'avais des gros godillots, puis une espèce de survêtement, hein, on appelait pas ça jogging, hein, on ne savait même pas que ça existait, de survêtement bleu. Je passais chez le coiffeur aussi au début, parce qu'il fallait que les cheveux soient un peu plus courts. Hein. La barbe, je crois qu'elle me l'avait taillée aussi un petit peu. Et puis voilà, puis on se met à disposition du réalisateur. Donc, Monsieur Clément, on n'a pas besoin de vous en ce moment. Je retournais au bureau, hein, et je travaillais avec mes gros godillots aux pieds, tenue de prof de gym. Et puis, je voyais quelqu'un du film arriver. Monsieur Clément, on va tourner la scène du réfectoire. Bon, très bien. Et là, c'est la scène du petit salé aux lentilles.
Voilà. Rester célèbre chez les jumeaux qui sont dans le film.
Je suppose.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais oui, je ne t'oublierai.
Ouais, ça revient tout seul, non?
Tout seul. Hein. Aujourd'hui, moi, je suis avocat et moi, je suis directeur financier. Je m'appelle Jean-Charles Négrevergne. Je m'appelle Jean-Philippe Négrevergne. On est tous les deux provinois et on a le même âge. En 87, on avait 12 ans. Et on avait déjà le même âge en 87, et on a été dans toutes les scènes présentes du film Au revoir les enfants. Et c'est un peu normal qu'on ait le même âge, parce qu'on est jumeaux.
Louis Malle a voulu des jumeaux.
C'était une audace de mon frère, qui a fait le choix d'aller le voir lorsque Louis Malle est venu à Sainte-Croix pour présenter son projet de film. Et Jean-Philippe est allé le voir, bah, je vais le laisser raconter l'histoire. J'étais très surpris qu'il ne nous ait pas sélectionné en fait en tant qu'acteur. Et donc j'ai décidé d'aller le voir pour lui demander s'il avait besoin de jumeaux. Et c'est avéré que dans sa classe, il avait des jumeaux. Et finalement, sur place, immédiatement, Renato Berta nous a castés. Ils nous ont demandé de faire une petite scène juste pour, je pense, avoir une idée si on était ou pas photogénique. Je pense que ça a aussi amusé un peu Louis Malle. On portait pas de lunettes à l'époque et il a cherché à nous mettre des lunettes identiques avec des verres blancs. On avait des lunettes rondes.
Vous avez fait faire aussi des effets miroirs en mettant chacun la cravate l'un de l'autre, des choses comme ça.
Ouais, il y avait un petit jeu. Je crois qu'il s'en est un peu amusé, effectivement. Ouais.
Il ouvrait des moments marquants de ce tournage.
Je me souviens lorsque, à un moment donné, la Gestapo rentre dans le dortoir. Je suis endormi dans le lit parce que, à force d'être resté allongé, vous endormez. Et je me réveille et je savais pas si on était en pleine scène ou pas, s'il fallait se lever ou pas. Donc j'attendais jusqu'au moment où j'entends Louis Malle dire couper. Donc je dis ouf.
Moi je garde en mémoire olfactive l'encens dans la scène qu'on fait dans la chapelle. Et c'était même pour la séance de cinéma. Mmh. Et finalement, chaque fois que j'en sens de l'encens, celle-là, il y a l'image qui me revient du film. Et puis après, il y a tout un tas d'anecdotes qui étaient relativement sympas sur la scène de fin, où, avec la claque, où tout le monde était très content d'avoir se prendre une claque, et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il y avait les scènes, je dirais...
Les bains avec les Paris.
Ouais, et puis les échasses.
On a appris à faire les échasses.
Le vendredi soir, chacun part avec une paire d'échasses. Il y a quelqu'un qui nous fait une démonstration, ça dure 10 minutes. Chacun part avec sa paire d'échasses en se disant je vais pas y arriver. Lundi matin, tout le monde était en train de se battre, courir après. On arrivait à courir. Enfin, c'était comme si on avait toujours fait.
Le Bermuda en plein hiver, on a découvert la tenue très confortable, en tout cas peu chaude, mais voilà, les grandes capes, tout ça, c'était vraiment.
Bon, les scènes du soir, effectivement, où on faisait les scènes de dortoir, quand on tournait pas, alors faut savoir que quand on avait quelques heures où on ne tournait pas, on restait quand même sur le plateau ou on allait en cours. Et c'est arrivé qu'on aille en cours en pyjama.
Vous souvenez-vous de ce qu'il y avait sur la photo que vous regardez dans un coin très complice? Vous vous souvenez de cette scène-là?
Oui, très bien.
Non, par contre, on n'était pas du tout préservés. On avait des photos de femmes à poil. Voilà.
C'est très amusant. Alors, pour des jeunes adolescents, je ne vous cache pas que c'était effectivement très plaisant.
C'était rigolo. Quoi,
ça restait extrêmement sommaire quand même. Et
c'était des photos d'époque.
Donc, oui, des photos d'époque.
Et vous vous souvenez de ce que vous dites?
Pas du tout.
Elle est vachement bien roulée.
Oui, c'est possible. Ouais,
c'est toi, ça c'est sûr.
Et Julien Quentin qui vous regarde.
Je dirais la même chose.
Et Julien Quentin qui vous regarde.
Je dis pas.
Dit, elle a même pas de nichon.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai.
Est-ce qu'il était vrai?
Ce qui était vrai en demeure, voilà, c'est vrai.
C'est vrai, donc, j'avais pas pensé à ça. Je me souvenais pas.
Chante, Rossignol, chante-toi qui a le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Voilà, c'était ça les photos que je voulais vous montrer.
Ah, alors, on décrit qu'il y a sur la photo. Vous?
Et Gaspard.
Et Gaspard Manès qui joue Julien Quentin.
Voilà. Et si c'est les deux qui m'embrassent, tous les deux,
Julien
qui m'ont sauté dessus.
Jean Bonnet qui embrasse Renato Berta. Et ça vous touche alors?
Ben oui, parce que c'est évidemment, je dis ça, c'est bon, c'était une époque. Et puis regardez les regards de ces deux enfants, je dis.
Très joyeux, très contents.
Ben oui, ils étaient adorables. En plus, c'était vraiment l'âge où ils changeaient énormément. Ils grandissaient.
Physiquement parlant.
D'ailleurs, ouais. Si on regarde entre le début et la fin du film, il y a des changements.
Gaspard Manès et Raphaël Fagetto, voilà, les deux acteurs principaux du film,
ouais.
Qui vous sautent au cou, en gros. C'est ça, si on résume la photo.
Ben voilà, ça c'est le moment qu'on tournait là, dans la forêt. Ça c'est justement le choix, les différents moments de la diminution de lumière.
Donc vous derrière la caméra avec Louis Malle, qui porte un bonnet, qui fume la pipe.
Oui, voilà.
Qui fait très sérieux. Hein.
Oui. Et avec le scénario. Ça, c'était l'équipe de tournage. Voilà.
Siron, remettez du bois dans le poêle, on gèle. Je ne vous croyais pas obligé de faire le pipe. Qui peut montrer que dans ce quadrilatère, la somme de deux côtés opposés, AB plus CD, est égale à la somme des deux autres, BC plus DA? Vous, le nouveau?
Il s'appelle Dubonnet, monsieur.
Ça va, on a compris.
Alors?
On sait que les tangentes à un cercle issu d'un point sont égales.
Bien.
Donc, A, un petit A et petit A.
Oui.
B, un petit B et petit B.
Bien.
C, un petit C.
Louis Malle, à Provins.
Quelquefois, il se passe une chose, c'est que une équipe de films tournant avec des enfants, on a un peu tendance à leur dire, oh, arrête de les traiter un peu comme, je sais pas, avec des rapports qui sont pas, qui sont un peu autoritaires, comme ça, que moi me déplaît beaucoup, c'est-à-dire, toi, reste là, bouge pas, écoute, arrête. Évidemment, quelquefois, ça pouvait être agaçant quand on faisait un plan et qu'il y avait 20 enfants et puis que, malgré tout ce qu'on leur avait dit, par exemple, le problème qu'on avait tout le temps, c'est qu'il y en avait toujours un dans le champ qui mâchait du chewing-gum. Et ça, c'était l'horreur absolue. Il y avait un assistant ou la script girl qui venait me voir, il me dit, tu sais, il y a Pascal, là, il s'est mis à mâcher son chewing-gum. Il avait dit qu'il l'avait plus, mais en fait, il l'avait dans l'arrière de la bouche et il s'est mis à le mâcher. Et alors, bon, on les engueulait parce que, bon, ça, c'était truc. Mais dans l'ensemble, c'est de travailler avec eux sans du tout les bousculer des rapports d'égalité, quoi. Les rapports de... On travaille ensemble, on fait quelque chose ensemble et ils ont une responsabilité énorme parce qu'ils sont devant la caméra et pas nous. Donc, finalement, c'est eux qui sont sur l'écran et pas nous. Donc, on est obligé de leur faire totalement confiance. Et il faut qu'on ait des rapports d'estime et c'est comme ça que ça marche. Sinon ils ont l'impression d'être en classe avec des professeurs moi ce que je considère des mauvais professeurs, c'est là des professeurs qui ne se servent que de leur autorité sans rien d'autre. Et c'est souvent le cas dans les films et c'est très regrettable.
Comment tu t'appelles?
Souvenir de Sherlock Holmes.
Mettez-vous au lit. C'est juste une coupure.
Je m'appelle Julien Quentin. Et si on me cherche, on me trouve.
Babino. Gaspard Manès, vous êtes l'un des deux héros du film Au revoir les enfants. Vous jouez Julien Quentin. Vous êtes les yeux de Louis Malle dans le film. Vous jouez Louis Malle. Ça doit quand même compter quand on est un enfant, comme vous étiez à l'époque.
Il a plutôt établi une relation de confiance et de me donner un peu carte blanche, pensant que je pouvais incarner son personnage. Et après, ça a été du travail un peu technique, de diction, de remaniement éventuellement de dialogue. Mais il a surtout, à mon avis, cherché une spontanéité et un naturel. Je pense qu'au même titre que lui ne devait pas très bien comprendre ce qui se passait pendant la guerre... Il nous a pas farci d'informations non plus sur cette période. Par exemple, bon, pour moi qui joue son rôle, les relations avec sa mère ou avec sa famille ou avec son frère et tout ça, il m'en a pas parlé. Moi, je pense que notre humeur et notre ressenti affectif du moment était plus lié au temps ou à ce qu'on allait manger à midi ou aux conditions de fatigue ou aux... des choses comme ça.
C'est l'heure.
Quand t'as pissoli.
Nato Berta, comment tourne-t-on avec des enfants?
Mon Dieu, c'était assez compliqué. Je me souviens dans le dortoir, c'était de venir fou des fois parce que il y avait ces lits qui partaient dans tous les sens. Il y avait des petites roues et naturellement ils partaient dans tous les sens. On faisait un cadre, deux minutes après le cadre, il était complètement modifié. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tous les lits se sont déplacés par là. À gauche, mais, oh, mon Dieu, mais allez, hop, remets. Je me souviens qu'il avait craqué une fois, Louis. Il avait craqué, qu'il m'avait dit, oh là là, j'en peux plus. Je sors un quart d'heure, reste ici, fais avancer les choses. En plus, les Allemands méchants, ils étaient tous des braves étudiants allemands qui savaient pas comment tenir un fusil, qui n'avaient jamais mis un casque sur la tête. Des fois, c'était un peu difficile de ce point de vue-là. Ils étaient tous déjà hyper adorables, tout était déplacé. Mais il y a eu quand même d'autres moments assez difficiles. Quand on les a vécus, il y a eu Des moments d'une tension évidente, quoi, je dis, surtout vers la fin du film. Quand ils sont arrêtés, je me souviens, la première prise qu'on avait faite du père qui sort avec les enfants avant qu'ils partent, la première prise, il y a un silence qui s'est installé dans cette cour.
La séquence de fin où on passe devant tous les élèves et que le père Jean dit au revoir les enfants et que tous répondent au revoir mon père. On sortait par la petite rue, la porte se claquait, on était toujours accompagnés par nos amis SS. Et on était derrière tous les trois petits juifs, et on se parlait pas, quoi. On avait la gorge nouée. C'était assez terrible.
Cet escalier-là n'existait pas. Non, c'est, tout ça, ça a été
refait. C'était très gris, très froid dans le film. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus chaud.
En revanche, cette porte-là, elle existait, cette porte-là.
Alain Clément, c'est la classe du film, là?
Oui, sauf qu'elle n'était pas du tout positionnée de cette façon-là. C'est-à-dire qu'elle était en longueur. Alors que là, elle est en longueur perpendiculaire à la voie. Or, dans le film, elle est parallèle à la voie. Parce que je pense que là-bas, il y avait une partie de l'appartement des sœurs.
Là, je vois des fenêtres, non? Ce sont des fenêtres,
oui. Qui donnent sur la côte Saint-Thibault. Mais pas dans le film. C'est uniquement de ce côté-là.
Le premier monôme est 2-3.
Arrête
B.
Arrête.
La scène où on vient arrêter
oui.
Jean Bonnet, c'est cette classe-là.
Oui. Oui. Ok, on a une place.
Parce qu'il semble que Louis Malle a été très impressionné en tournant cette scène-là. C'est une scène assez majeure par rapport à son histoire. Oui.
Bien sûr. Bien sûr.
Docteur Müller, Gestapo de Müller. Lesquels d'entre vous s'appelle Jean Kippelstein? Répondez.
Il n'y a personne de ce nom dans la classe.
Bah, la scène était assez mouvante parce que en fait je pense qu'on a tous été préservés dans le film, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine insouciance de la part des enfants, et je pense qu'il y avait une volonté Louis Malle de protéger les enfants par rapport à ce qu'il lui avait vécu, et le fait qu'il soit très marqué par ça. Par contre, on l'a senti marqué lors de cette scène parce qu'il s'est mis à pleurer. C'est le seul moment où il n'y avait pas de joie. On sentait qu'il y avait beaucoup de plaisir à refaire plein de choses. Mais ce moment-là, il était grave, il était marqué. Il était... Oui. Et je l'ai senti plus violent que le départ du père Jean sur la scène finale. Mmh. C'est-à-dire que c'était une scène qui était pesante. Voilà.
Allez.
Nous quittons maintenant Provins et son tournage pour la ville d'avant où s'est déroulée la vraie histoire d'Au revoir les enfants. Là-bas, le père Jean du film s'appelait en réalité Père Jacques de Jésus.
Los Springs and Ross. Ce garçon n'est pas un Français. Ce garçon est un juif. En le cachant parmi vous, votre directeur a commis une faute très grave vis-à-vis des autorités d'occupation. Le collège est fermé. Vous avez 2 heures pour faire vos bagages et vous mettre en rang dans la cour.
Même si notre histoire commence par « Il était une fois », elle ne se terminera pas bien. Et si nous vous la racontons aujourd'hui, c'est justement parce qu'elle est arrivée un jour d'hiver 1944 dans notre petite ville, dans l'enceinte même de notre petite école.
Nous voici arrivés à Avon, là où s'est déroulée la véritable histoire du film Au revoir les enfants. Avon, c'est juste à côté de Fontainebleau et en bordure de la forêt de Fontainebleau, où l'on peut d'ailleurs grimper sur beaucoup de rochers, comme dans le film. Alors, je suis en présence ici de deux frères, le frère Didier Joseph et le frère Robert Arcas.
Nous sommes ici dans une partie de l'ancienne cour du collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, appelé le Petit Collège, qui est aujourd'hui la cour du centre spirituel des Frères Carmes d'Avon.
Louis Malle est venu ici, alors j'imagine.
Louis Malle a été élève en 1943-44, et puis dans les années après-guerre aussi. Oui, il a été élève ici.
Alors où se trouvait exactement le Petit Collège ?
Bien, le petit collège se trouvait, c'est la partie que vous avez devant vous, c'est un bâtiment du XVIIIe siècle, c'est un ancien hôpital du XVIIIe siècle, et puis derrière, des bâtiments qui avaient été construits avant-guerre par le Père Jacques pour répondre au développement du petit collège, qui restait tout le temps un petit collège, mais au départ il y avait 30 élèves, puis il y en a eu jusqu'à 120.
Vu d'ici, on a une très belle cour. Et cette cour, elle est très grande avec ses arbres, elle est magnifique. Hein, c'est une vraie cour d'école. On imagine que les enfants se sont bien amusés ici, sur des échasses notamment.
Oui. Effectivement, c'était le terrain de jeu. Et le Père Jacques, d'ailleurs, jouait pendant les récréations avec les élèves. Ce n'était pas un directeur qui était en retrait.
De toute façon, il était animateur, leader, il entraînait tout le monde, le Père Jacques.
Hein. Il est, oui, complètement présent. Très proche ses élèves.
On voit bien jouer au foot.
Voilà, oui.
Avec ses élèves.
Au collège des Carmes, le Père Jacques pratiquait une pédagogie nouvelle. Les exercices physiques dans la forêt de Fontainebleau. Les cours de dessin dans le parc du château. Et tous les élèves partageaient les temps faibles, les temps forts et pouvaient rêver d'un avenir meilleur sans discrimination. À un avenir de liberté et de responsabilité.
Frère Didier-Joseph, vous êtes le prieur de cet endroit.
Quatre fois par jour, les frères se rassemblent dans la chapelle. Ici, donc, c'est la cloche qui annonce la messe, célébrée tous les jours, pour les personnes qui viennent en retraite ici au couvent, et pour d'autres qui sont dans les environs, qui savent que tous les jours, à midi moins le quart, nous avons l'Eucharistie.
On pénètre à l'intérieur du bâtiment maintenant.
Aujourd'hui, si vous entrez dans ce qui est la partie centre spirituel et couvent, vous verrez, on a repris des anciennes photos du temps du Père Jacques, au niveau des salles à manger, donc des réfectoires, au niveau des salles qui servaient de dortoir, etc. Voilà.
C'est la grande salle d'études.
D'ailleurs, je ne vois pas de filles, hein. Il n'y a que des garçons ici.
C'est un pensionnat de garçons, oui. Il y avait à l'origine une idée de juvénat, de préparation peut-être à des vocations religieuses ou presbytérales. Mais quand le Père Jacques a été nommé le directeur, le Père Jacques avait été professeur, éducateur et professeur à Saint-Joseph du Havre. Et il était prêtre donc depuis 1925, est entré au Carmel en 1931. Là, il est tout jeune, il est né en 1900, donc il est directeur, il a 34 ans, 35 ans. Il a des idées d'éducation, il sait que ce concept de petit séminaire, ça ne marchera pas. C'est pas trop dans la tradition française. Alors vous voyez ce qu'on appelait le dortoir des petits.
Encore une photo, parce que là, on regarde encore une photo, au temps du Père Jacques, le dortoir des petits.
Oui, c'est ça. Oui, alors voilà donc cette photo, ce qu'on appelait le dortoir des petits, parce qu'il y avait le dortoir des grands. Moi, j'ai connu, vous voyez, tout au fond de la photo, vous avez des petits placards, les élèves mettaient là leurs affaires. D'ailleurs, dans le film de Louis Malle, on voit cela, d'ailleurs.
Ah, en tout cas, moi, ce qui me saute aux yeux, si on peut dire, c'est la lumière.
Hein. La lumière.
Beaucoup de lumière dans ce bâtiment, beaucoup de fenêtres.
Vous avez raison. Alors le Père Jacques voulait pas d'une pension triste, vraiment qui soit déprimante pour les élèves. Il voulait qu'il y ait beaucoup de joie de vivre dans son collège. Et les couleurs des murs, tout ça. Enfin, il s'est occupé de tout, y compris de la vaisselle. Oui. Il avait soin de faire un lieu beau.
C'est un lieu de vie. Tout ça, j'ai l'impression que ça vivait ici, ça bougeait.
Oui,
il y avait du mouvement.
Tout à fait. Ah oui, bien sûr. C'est la jeunesse.
Alors, Madame Perrin, qui veut du saucisson ?
Moi ?
C'est du cheval, je vous préviens.
Merci.
Faut que je mange, je suis de l'anémie.
Et nous alors, t'as entendu le Père Jean ?
Il y a un passé pour tout le monde, sans qu'à mon honneur, aux parents.
Il n'y a plus qu'un morceau.
Sers-toi.
Merci, t'es chic.
Il avait ce regard qui vous perçait et qui savait très très bien déceler à la fois ce que vous étiez, ce que vous pouviez faire, jusqu'où vous pouviez aller. Il n'avait pas son pareil pour susciter chez chacun de ses élèves ce qui pouvait être le meilleur.
François-Xavier de Seyès, ancien élève de la classe des grands.
Il voulait que l'éducation dans cette maison soit une éducation ouverte, donc qui soit faite de culture. Il avait une soif d'inoculer une culture générale, une culture approfondie dans tous les domaines, et notamment une culture sociale également. Il était très très conscient des responsabilités sociales que devaient avoir ses élèves un jour. Et son horreur, c'était la médiocrité et la vie d'embourgeoisement.
Je suis un enfant juif et mon costume, c'est juif. Ça, c'est le prénom français pour pas qu'on me reconnaisse. Et ça, c'est le prénom juif. Le vrai nom, c'est Anselme Michel et le faux nom, c'est Jean Bonnet.
Le prénom juif, c'est Jacques Alpern. Et le faux prénom français, c'est Jacques Dupré. Pour pas qu'on reconnaisse l'enfant et qu'il soit envoyé dans les camps de concentration.
Faux nom, donc Maurice Sabatier. Et le vrai nom, Maurice Locher.
Et à côté de vous, il y a aussi quelqu'un qui est parti, malheureusement, avec vous.
Le père Jacques. Il nous a accueillis dans une école, dans le couvent des Carmes. C'était le directeur. Directeur du collège des Carmes. Et c'était le professeur.
Le père Jacques, un soir, je me souviens très bien, ça devait être en janvier ou février 1943, nous a dit ce jour-là, ce soir-là, je vous annonce que vous allez bientôt voir arriver parmi vous trois élèves, l'un en classe de seconde, un autre en classe de cinquième, un autre en classe de sixième. Ce sont des enfants qui appartiennent à des familles des arrêtés. On savait très bien qu'à ce moment-là, il y avait des déportations déjà en 1943. Et le père Jacques nous a dit, j'en appelle à chacun de vous pour garder absolument, c'est un risque que nous prenons. Mais une vie sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue. Je demande à chacun de vous d'abord d'accueillir d'une manière parfaitement naturelle ces enfants, de faire comme s'ils étaient absolument vos camarades en tout point, de leur marquer votre gentillesse et de ne jamais en parler autour de vous.
Vous êtes prêts ? 1, 2, 3.
Amis, entends-tu le clameur des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la balle.
Albert Ouzoulias, dit le colonel André, commissaire militaire national des FTP.
Il savait que j'étais communiste. Nous avions la même idée de la dignité de l'homme, la même idée de la liberté, de l'indépendance du pays, et la même idée aussi dans des formes sans doute différentes de l'avenir. Le père Jacques était vraiment le chrétien et l'homme dans toute l'acception du terme. On se ressourçait, et le père Jacques apportait son calme, son intelligence et puis son grand humanisme, tout son cœur.
Un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, il s'en va, séchera.
Moi, je dirais que dans sa tête, c'est un résistant. C'est un homme qui a toujours été dans la résistance. Concrètement, quand il est... Alors, savoir quand il est entré dans un réseau de résistance, c'est une autre affaire. Mais en 42, 43, il est résistant.
Parce qu'il appartient au réseau Vélite Thermopyle. Il est agent de renseignement et il a le matricule RX3280. Donc, c'est pas un petit agent, rien du tout. Tout de même.
La municipalité, on sait aujourd'hui que la municipalité était résistante dans l'ensemble. Le père Jacques était en lien avec Rémy Dumoncel, avec Paul Matéry.
Qui était le maire et le secrétaire de mairie.
Il y a une personne qui dit un jour, un de nos frères, que probablement il y avait une centaine d'enfants juifs qui étaient passés ici. N'avait fait que passer, mais ça avait été une étape dans leur sauvetage.
En 1985, le père Jacques de Jésus a reçu le titre de juste parmi les nations.
Alors le père Jacques, lui, a été arrêté dans cette classe. Il y faisait un cours de français et au cours de la seconde heure de classe, il s'est ouverte et un homme de la Gestapo vêtu en civil est venu appeler le père Jacques ainsi que Jeanne de Pré.
Sait-on qui les a dénoncés ?
Alors, ça, c'est vraiment un mystère qui reste. On ne sait toujours pas qui a dénoncé exactement les enfants. Il y a un mystère autour de ça. Il y a plusieurs versions. Quand il y a eu l'arrestation, les hommes de la Gestapo sont entrés directement dans les trois classes où il y avait les trois enfants et dans une, en plus, le père Jacques qui était en train de... jouer son rôle de professeur.
Et avec les noms d'emprunt.
Avec les noms d'emprunt.
Ce qui veut dire que tout le monde pouvait les identifier immédiatement.
Bien sûr. Donc l'histoire du regard de Louis Malle qui dénonce son copain involontairement, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les trois qui sont entrés dans les classes, les trois policiers de la Gestapo qui sont entrés dans les classes, savaient qui ils venaient chercher et dans quelle classe ils venaient les chercher.
T'en fais pas, c'est que des juifs. Bonnet, tu l'aimais bien ?
François Négret, quand je vous regarde, finalement, vous n'avez pas beaucoup changé 30 ans après. Vous êtes toujours le Joseph du film d'Au revoir les enfants. Parce que Joseph, ce n'est pas n'importe quel rôle, c'est un rôle clé.
Ouais, c'est le rôle du salaud avec des circonstances atténuantes.
C'est celui qui dénonce Joseph, hein ?
Ouais, tout à fait. C'est celui par qui le scandale arrive. Enfin, le...
Ou la tragédie, quand même.
La tragédie, plutôt, ouais. Ouais.
Comment on entre dans un rôle d'antisémite, de haine du juif ?
C'était un peu contradictoire de jouer ce rôle-là, alors que mon père m'a raconté beaucoup, beaucoup d'histoires de... Mon père s'est caché entre 1939 et 1945 pour échapper aux nazis. Il avait entre 13 et 18 ans. Ses grands-parents polonais sont morts dans les camps. Son père est mort dans les camps, mon grand-père. Donc tout ça était quand même très chargé et me parlait de manière contradictoire. C'est difficile à définir de comment ça parle, en fait. Mais bon, c'est un rôle, quoi.
Dans le film, on le traite de chien, Joseph. C'est très violent aussi de la part de ceux qui le regardent et qui le prennent un peu comme un larbin.
Oui, il est handicapé, il a un pied beau, donc c'est la différence. Alors que au départ, c'est juste un gamin mal dans sa peau, qui n'est ni dans le monde des adultes, ni dans le monde de l'enfance, et qui est désargenté. Par rapport à tous ces bourgeois de l'école, aussi, il y a un phénomène de racisme social.
Lors de leur arrestation, le 15 janvier 1944, les trois enfants juifs sont emmenés à Melun, ainsi que la famille du professeur Veil de Fontainebleau, de là à Drancy, et le 6 février 1944, ils meurent dans les chambres à gaz à Auschwitz.
Marie-Van Braunschweig, vous avez écrit un livre remarquable avec Bernard Gidel et tous les enfants de l'école d'Avon, un livre qui s'appelle « Les déportés d'Avon », enquête autour du film de Louis Malle, « Au revoir les enfants ». Et il y a vraiment quelques pages qui m'ont interpellé dans ce livre. C'est la façon dont l'adjoint de la Gestapo de Melun, Korff, a été peu puni pour ses crimes de guerre.
Il n'est pas le seul hein, dans ce genre. Barbie à la fin de la guerre passe inaperçu aussi. D'abord, on ne retient pas le crime contre l'humanité, on ne retient pas le crime contre les Juifs. Ça n'entre même pas dans les débats. On retient ces actes de torture, on retient les arrestations de résistants, on retient les exécutions de résistants, on retient les pillages. Mais l'arrestation de Juifs, ça fait pas partie des choses pour lesquelles on le juge. Alors il a été d'abord protégé un peu par les Anglais, tous ces hommes de la Gestapo ont été utilisés par tous les services de renseignement soviétiques, américains, français et britanniques. Bon, les Britanniques finissent par le laisser aux Français en 1953, un procès a lieu en 1953. On lui reproche beaucoup de choses, dont le massacre des 5 oblats de la Brosse-Monceau, mais on ne lui reproche pas l'arrestation des 3 enfants juifs et leur envoi vers la mort. Et donc, il est condamné à la réclusion perpétuelle et il est libéré au bout de 10 ans. Au nom du rapprochement des relations, de l'amélioration des relations franco-allemandes qui aboutissent au traité de l'Élysée de 1963. Et je trouve incroyable que lorsqu'on parle, on a célébré il n'y a pas si longtemps le traité de l'Élysée, jamais on ne rappelle que c'est quand même De Gaulle qui a libéré tous ces criminels de guerre.
Vous, vos papiers, monsieur, s'il vous plaît.
Dis donc, toi, tu sais pas lire ? Ce restaurant est interdit aux Youtres.
Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'embêter les gens ? Il a l'air si convenable, ce monsieur.
Monsieur Meyer vient ici depuis 20 ans. Je peux pas me mettre à la porte, quand même.
Toi, le Loufia, ferme-la. Si je veux, je peux faire révoquer votre licence.
Collabo.
Tais-toi, François.
C'est toi qui as dit ça ?
C'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit.
Nous sommes au service de la France, madame. Oui. Ce garçon nous a injurié.
Mais allez-vous-en.
Moi, j'ai pensé que c'était pas juste que les Juifs n'aient pas le droit d'aller à certains endroits dans la ville. J'ai trouvé ça que c'était injuste que certaines personnes qui ont une religion différente n'aient pas le droit d'aller comme les autres dans un parc.
Je pense, moi, que cette histoire, elle peut effrayer d'autres personnes ou d'autres enfants, parce que quand même tuer des millions de personnes sans aucune raison comme ça, c'est un peu illégal, c'est contraire à leur loi.
Mais en fait, les Juifs étaient traités comme des animaux, parce que même quand on les déportait, ils étaient sans nourriture, dans des wagons d'animaux. Donc on leur interdisait tout.
En fait, les Juifs, pour moi, ils vivaient pas, ils survivaient. C'était dur d'échapper au camp de concentration des Allemands.
J'ai aussi trouvé poignant que la solidarité entre des personnes non-juives pour sauver d'autres personnes qui n'ont pas la même religion au péril de leur vie, j'ai trouvé ça poignant et que c'était de bons exemples à suivre. Quand, par exemple, il y a des nouveaux qui ne sont pas comme nous, on essaie de les accepter. On est tous différents et c'est ce qui fait la richesse de la race humaine. Que tout le monde soit différent, c'est bien, parce que si on était tous pareils, ça ne serait pas drôle.
Comme disait notre maîtresse, on est tous sur le même bateau.
J'ai bien aimé quand le père Jacques il a dit au revoir les enfants, mais il n'a pas dit adieu, parce qu'il ne voulait pas leur dire adieu. Après, il y avait des moments poignants, comme Emeline a dit. Et j'ai bien aimé.
Philippe Morier-Genoux, vous incarnez le père Jean dans le film Au revoir les enfants. Comment êtes-vous rentré dans la peau de ce prêtre ?
Moi qui étais donc un huguenot, bon teint si vous voulez, on me demande de jouer le rôle d'un prêtre. Et je m'étais dit, j'aimerais savoir qui c'est cet homme, comment m'approcher de lui. J'avais quelques photos, je voyais une vague ressemblance. Bon, j'avais un copain qui me disait, bon, on va te mettre une robe de bure dessus et tu seras immédiatement identifié comme un prêtre. Et ça suffisait pas. Donc, je me suis permis d'aller interviewer un jésuite à Paris. J'avais un ami jésuite qui m'avait dit, mais pourquoi tu n'irais pas voir le père Riquet? Il a très bien connu le père Jacques de Jésus. Et pour qu'il comprenne mieux, je lui disais, écoutez, je dois, moi, me renseigner sur quel était ce personnage, l'avez-vous connu, comment parlait-il, avait-il des manies, etc., etc. Et là, il m'a donné quelques tuyaux, il m'a donné quelques indications du... Et surtout des indications très très éthiques, morales, enfin, il gardait une haute idée de ce personnage. Mais par contre, ce qui m'a aidé, c'est que lui m'a raconté sa déportation à Buchenwald ou à Gusen, et c'était deux camps qui fonctionnaient ensemble, et ils se seraient rencontrés dans ces circonstances parce qu'il y avait des échanges de prêtres de camp à camp, parce que les Allemands voulaient montrer à l'opinion publique qu'ils n'avilissaient pas les prêtres, donc ils les regroupaient tous dans un même camp, ils faisaient leurs prières, les messes, et ils exportaient ces images en disant, vous voyez, on respecte les religions chrétiennes. Alors du coup, j'avais là un certain nombre d'éléments, et puis les indications du metteur en scène, mais surtout j'étais dans une très très grande tristesse, parce que plus j'avançais dans la compréhension de l'événement, plus je devais imaginer, si vous voulez, l'insupportable.
Louis Deblé et Jean Gavard, compagnons de déportation du père Jacques à Gusen.
Et voilà comment pendant près de 11 mois, à quelques mètres l'un de l'autre, j'allais m'asseoir à côté de lui, chaque fois que je le pouvais. Nous avons parlé de la forêt de Fontainebleau, avant de traduire, car c'était un éducateur dans l'âme. Et quelquefois, sans motif, je me retournais pour le plaisir de le voir. Il obligeait, par son attitude, à rester calme. C'était un aimant, et en même temps, quelqu'un de reposant. Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait faire de ce camp un cloître à sa propre dimension. Et puis en fait, il a dit la messe à Gusen. Je crois que c'est unique dans ce camp de la mort.
Quand on rencontrait le père Jacques, et particulièrement dans un camp de concentration, comme ça a été mon cas, on n'avait plus honte d'être un homme, alors que quand on voyait les SS, on pouvait avoir honte d'être un homme. Il savait que les détenus étaient massacrés, ils voyaient évidemment, comme nous tous, des cadavres, mais ça n'entamait pas sa sérénité. Vous savez, utiliser le mot sérénité pour un camp de concentration, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, de son point de vue, je croyais comprendre que sa présence aux autres, cette horreur que nous pouvions tous avoir, lui aussi, pour ce qui se passait autour de nous, il arrivait à dépasser ça.
Quelques jours après la libération des camps, le père Jacques meurt d'épuisement le 2 juin 1945.
Tous ont pris le train de la mort, programmé par les nazis, pour avoir dit non à l'antisémitisme, non au racisme, non à la barbarie.
Le père Jacques est sorti lui-même et il s'est arrêté là. Il avait sa cape sur les épaules et il a dit au revoir les enfants. Et alors à ce moment-là, on est tous à coude.
Au revoir mon père.
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 Au revoir les enfants. Bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père. Au revoir mon père. Et on a dit au revoir père Jacques. Alors ça a déclenché quelques vociférations de la part des Allemands. Et je crois que le père Jacques a dit également au revoir les enfants, continuez sans moi. Continuez sans moi.
Merci à l'institution Sainte-Croix de Provins, au couvent des Carmes d'Avon, aux élèves de Marie-Christine Agopian de l'école élémentaire Paul Matéry d'Avon.
Merci. Merci. Merci.
à Rémi Tillet et Christian Trognon de la radio Médiaval et à la société Gaumont. Extrait du documentaire « Les enfants du père Jacques », prise de son Laurent Macchietti, mixage Claude Niort, coordination Christine Bernard, Au revoir les enfants, les mots qu'on n'oublie pas, un documentaire de Dominique Prussac et Anna Schmuck.
Retrouvez sur le site de l'heure du documentaire les photos, les liens, les vidéos et toute la bibliographie des documentaires de cette semaine afin de prolonger votre écoute. La semaine prochaine, l'heure du documentaire vous propose une semaine consacrée à l'amour.